Ritimo, le changement par l'info.
Depuis le 28 avril, les Colombiennes et les Colombiens sont à nouveau dans les rues. Des manifestations pacifiques fleurissent aux quatre coins du pays en protestation contre un projet de réforme fiscale proposé par le président Iván Duque. Il faut dire que les inégalités socio-économiques sont particulièrement crues dans ce pays encore très affecté par la violence des guérillas et des paramilitaires. Pour mieux comprendre ces mouvements sociaux massifs, Ritimo a discuté avec Viviana Viera, activiste colombienne. Après avoir vécu 14 ans en Europe et en particulier en Belgique, Viviana tient maintenant une ferme agroécologique. Elle y produit du café certifié bio dans la municipalité de Genova, au cœur du pays cafetier colombien. Elle nous a raconté la situation économique dans son pays, l'indignation face à l'impunité de la classe politique, la violence des forces armées, le rôle des médias et bien d'autres choses encore. Viviana, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des mouvements sociaux qu'il y a en ce moment en Colombie?
Et en fait, le gouvernement a décidé de passer une réforme des impôts où il a décidé en fait de taxer énormément les classes moyennes et les plus pauvres. Par exemple, il a décidé d'augmenter le prix de l'essence, d'augmenter la TVA, même sur les produits de base alimentaire, d'augmenter, de mettre des taxes sur les services publics, par exemple l'eau, l'électricité, qui sont déjà super chères en Colombie. Et en fait, la situation en Colombie n'est pas simple. Les gens, en ce pays, ils connaissent 43% de pauvreté, même si, disons, les statistiques qui permettent de mesurer la pauvreté sont exagérées. Au niveau qu'on considère qu'une personne est de la pauvreté s'il a moins de 100 euros par mois. Et en fait, vivre avec 105 euros par mois, ça, non plus, ça ne permet pas d'avoir un niveau de vie digne. Le salaire minimum est très bas et les prix des produits sont assez élevés. Par exemple, un litre de lait il coûte 1 euro. Donc, du coup, la situation est très, très critique. On a des enfants qui meurent de faim, de malnutrition. On a une grande partie de la population qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Et pendant la période de pandémie, le gouvernement a décidé de faire des achats exubérants. Par exemple, il a acheté des voitures de luxe. Ils ont décidé de donner plein d'argent à une entreprise aérienne qui est domiciliée dans un paradis fiscal. Et tout ça, en fait, pour faire un prêt d'argent au Fonds monétaire international qui oblige à faire des privatisations, augmenter les impôts, et plein de réformes qui ne sont pas seulement au niveau des impôts, mais aussi au niveau de la santé, au niveau du travail.
Est-ce que ces réformes fiscales ont un rapport avec le traité de libre-échange qui a été signé avec l'Europe il y a quelques années?
Je pense que le traité de libre-échange a permis aussi de rentrer dans cette crise, parce que par exemple, les gens qui produisent du lait, maintenant ils sont vraiment dans une situation économique très précaire, parce que le lait en poudre européen est en train de rentrer, de se mettre avec de l'eau et d'être vendu comme du lait frais. Et ça a déplacé que beaucoup des gens qui vendaient du lait, maintenant, ils ne sont plus rentables dans leur business. Donc, c'est vraiment une situation économique qui dépend de beaucoup de choses. Et cette réforme, bien sûr, fiscale, reçoit les effets du traité de libre-échange, parce que en fait le fait que maintenant beaucoup plus de gens ont vu se faire inonder par des produits qui sont européens mais aussi états-uniens qui sont beaucoup moins chers, ça a fait que la crise économique a augmenté. Donc du fait, ça a quand même beaucoup de déclenchements. Et donc c'était la goutte qui était trop dans le verre. Et cela a fait que les gens sont sortis dans la rue. Ils sont sortis énormément. Depuis le 28 avril, on connaît une grève générale au niveau du pays. Le président, il a décidé de retirer le projet fiscal, mais les gens ne croient plus du tout, en fait, aux paroles de ce président. Et le ministre de l'économie a démissionné, mais en fait, il va être nommé président d'une banque, donc voilà, c'est pas non plus une punition. Et aussi, il y a tout un autre volet qui est celui de la violence, les accords d'épée, et une violence où on est en fait le pays au monde où le plus de leaders sociaux sont assassinés. Aussi, les défenseurs de l'environnement, et où on connaît aussi un climat de violence avec des groupes armés et une police qui massacre des gens de l'armée aussi, qui violent des filles, qui massacrent. Et un accord de paix avec la guérilla qui n'a pas été respecté et qui beaucoup de gens qui ont laissé les armes se font tuer aussi. Donc c'est quand même une situation assez compliquée qu'on vit en ce moment en Colombie.
En parlant de violence et de répression, les informations qui arrivent jusqu'en Europe parlent beaucoup de la répression particulièrement intense qu'il y a face aux mouvements sociaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? On a entendu parler notamment de militarisation des centres-villes.
Oui, alors la réponse est du gouvernement. Bon, il faut dire que c'est un gouvernement d'extrême droite, celui qui est au pouvoir en ce moment. Et le président, on l'appelle comiquement le sub-président parce qu'en fait, il a été élu par un ex-président qui pouvait plus présenter à la présidentielle parce qu'il a des investigations par les fortes violations des droits humains et des connexions avec la création des groupes paramilitaires en Colombie. Donc lui, il dit, voilà, mon candidat, c'est Iván Duque et lui, il est élu président. Avec aussi le soutien des groupes narcotrafiquants, c'est plein de scandales. En fait, ce gouvernement est rempli de scandales, c'est quelque chose d'affreux. Et alors, avec les manifestations, le gouvernement décide en fait de militariser les villes et d'envoyer voilà, massivement la police. Mais aussi, il y a l'apparition des policiers vêtus en civil qui tirent sur les manifestants, mais aussi le fait la police, mais aussi le fait le militaire. Et également, bah, c'est aussi cette politique un peu paramilitaire. Le ex-président, Uribe, avait déclaré quelques jours avant sur son compte Twitter que la police avait le droit de tirer sur les manifestants. Donc, il y a avant-hier, la nuit, c'était un massacre, vraiment. Dans un quartier de Cali, à Siloé, c'est un quartier pauvre. Les gens y faisaient une manifestation pacifique et la police est arrivée à tirer des balles réelles sur les gens. Ils ont tué 3 jeunes et ils ont blessé 19 personnes par balle. Aujourd'hui, on est à 26 morts. Bon, je ne connais pas les résultats de la nuit d'avant, de cette nuit, parce que c'est encore trop tôt. Les médias sont complètement focalisés sur parler plutôt de que les routes sont bloquées, qu'il y avait une ambulance qui voulait passer, elle ne pouvait pas passer, donc vraiment à parler des autres choses. Donc, finalement, les chiffres et tout ça, on le connaît. Vraiment par des médias alternatifs, des organisations de défense des droits humains. Les réseaux sociaux étaient très, très importants. Par exemple, lorsqu'il y avait la massacre dans ce quartier populaire à Cali, bah, ça a été que filmé par les gens même à travers de leur téléphone, les lives sur Facebook, sur Instagram. Et c'est ça qui prouve et qui montre voilà, que les gens étaient assassinés lorsqu'ils marchaient tranquillement. Ils persécutaient jusqu'à des maisons, donc c'était quand même assez horrible.
C'est super intéressant, ça me fait une excellente transition. Je voulais te poser quelques questions sur la couverture médiatique. Tu dis que les médias nationaux ont tendance à se concentrer sur les dégâts matériels. Comment est-ce que cette couverture médiatique plutôt adverse aux manifestants est perçue? Et est-ce qu'il y a des médias alternatifs qui documentent ce qui circule sur les réseaux sociaux? Qui et comment est-ce qu'on parle des manifestations?
Bah, il faut dire qu'ils vont faire, en fait, c'est surtout comment ils gèrent les infos. Par exemple, si tu vois un journal télé qui dure une heure et demie, ils vont parler 2 minutes sur les assassinats commis par la police et 45 minutes, ils vont parler sur les dégâts matériels et le reste, ça va être le Covid, un peu de musique et du sport. Et donc ça, forcément, à force d'être répété par les chaînes principales, c'est quand même compliqué parce que les gens qui ne sont pas sur la rue, bah, finalement, ils se laissent influencer. Donc c'est par ça que nous, on a décidé hier de faire aussi une activité symbolique ici, à notre village. Parce que bon, nous, on est dans un petit village, donc vraiment ici, il n'y a pas effectivement une grève réelle. C'est plutôt à la capitale du département que les choses se passent. Mais on a décidé de faire plutôt un hommage aux victimes de la violence policière et aussi un soutien aux personnes qui sont mobilisées dans les grandes villes et partout en Colombie. Et voilà, ça aura une petite répercussion sur les médias locaux, mais sur les médias nationaux, ils vont continuer à dire que voilà, que tout le monde est violent, que c'est des gens super agressifs. Et ils ne vont jamais vraiment remettre un peu en question que voilà, le droit à manifester, c'est un droit constitutionnel et qu'il faut le respecter. Quand, voilà, les gens ils doivent être jugés. Il y a eu, sur tous les assassinats, il y a aucun procès judiciaire qui avance. Il n'y a aucune condamnation et tout le contraire. Donc, c'est quand même assez grave. Mais voilà, les grands médias, c'est comme si en France, on sait à qui appartient les grands médias. C'est les mêmes groupes de pouvoir, donc c'est pas non plus très, très surprenant que cela se passe. Et par contre, il y a les médias alternatifs qui commencent à faire, à prendre plus de force pour avoir les infos et qui se font en même temps, bon, agressés, voilà, un peu de partout, mais qui continuent quand même à essayer de visibiliser la situation réelle de ce qui se passe en ce moment.
Qu'est-ce que tu penses de la couverture médiatique internationale, à la fois sur la quantité d'informations qui circulent et sur la façon dont elle est traitée?
Bah, je pense que au niveau international, la couverture médiatique elle a été plus équilibrée de ce qu'on voit ici à l'intérieur du pays. On parle vraiment des assassinats, on parle vraiment d'un excès de la force. Ça a été très important, la condamnation qu'a fait l'ONU par rapport à la massacre, massacre qui a été commis par les forces armées. Et important aussi les déclarations qui ont eu lieu au niveau du Parlement européen, de certains groupes de députés parlementaires, les déclarations du représentant de Borrell aussi.
Qu'est-ce que ça a généré comme impact, ces déclarations internationales ou cette façon de couvrir l'actualité en Colombie?
Ici, en fait, ils sont en train de dire que voilà, les gens qui manifestent, c'est vraiment des délinquants. Et c'est par ça que c'est justifié de les tuer. C'est le message en fait qui veut faire passer le gouvernement et les médias, les grands médias. Et malheureusement en Colombie, il y a des gens qui acceptent cette façon de réflexion. C'est pas ça que l'ex-président Uribe, il a eu autant de popularité. Donc du coup, c'est quand même quelque chose qui reçoit un grand écho chez la population. Donc on voit que des médias internationaux, voilà, très connus, sont en train de dire voilà, il s'agit de massacres, il s'agit en fait des assassinats commis par des forces armées, ils font même des portraits de certaines personnes qui ont été tuées, qu'on voit en fait les déclarations de l'ONU qui condamne vraiment la violence du gouvernement envers les manifestants, qu'on voit que la Commission européenne dit que voilà, manifester c'est un droit. ça, quand même, ça permet un peu de remettre les choses, dire, bon, en fait, voilà, si à l'étranger, ces organisations et ces médias disent que c'est peut-être un droit, bah, peut-être que ça, au fond du cerveau, ça fait quelque chose. Mais malheureusement, les gens qui suivent et qui se les influencent par ces gens de pensée, dire, ah, c'est des lincons, il faut les tuer, c'est des gens qui ne lisent pas beaucoup, hein. Ils sont pas très, très... C'est les gens qui, maximum, ils allument la télé, ils voient un journal télévisé, donc c'est aussi un peu compliqué, non, d'arriver vraiment à la tête de ces gens. Nous, par exemple, hier, ici, lorsqu'on a fait notre activité, on a lu certaines déclarations des organisations internationales pour montrer aussi que, voilà, c'est pas... C'est pas nous qui disons quoi, que manifester c'est un droit et que la répression est quand même super violente et il faut avoir des condamnations parce que ça ne peut pas rester dans l'impunité.
Pour commencer à conclure, je voulais te demander comment tu penses que ces mouvements en ce moment s'inscrivent dans l'histoire récente des mouvements sociaux en Colombie. Parce que d'après ce que j'ai compris, en 2019, il y a eu des mobilisations assez importantes, notamment des étudiants et des étudiantes. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ces mouvements sociaux et de la répression à laquelle ils ont à faire face?
Je pense que de plus en plus, les gens ouvrent les yeux. Et malheureusement, bon, on est un pays que l'éducation, c'est un privilège. Et que la pauvreté est tellement grande que les gens sont plus préoccupés de voir comment ils vont manger dans la journée que vraiment s'intéresser à des questions politique ou de changement de société. Et je pense que ça a permis aussi qu'on arrive à ce niveau si élevé. Par exemple, pour raconter une petite anecdote, une des personnes qui travaille, qui nous aide, son cousin, ah non, son neveu, est allé amener sa femme à coucher à l'hôpital. Et ils ne l'ont pas laissé rentrer. Après, ils ont dit que sa femme était morte avec sa fille. Et en fait, ce n'est pas vrai. Sa fille a été volée. Bon, il y a des choses comme ça, super horribles qui se passent. Mais qui arrivent quand même à un niveau d'impunité assez élevé. Parce que ici, bah, il y a quand même une guerre des classes assez grande. Et je pense que la classe qui est au pouvoir, elle pense que les pauvres n'ont vraiment aucun droit, seulement une force de travail. Et je pense aussi que ces protestes, ces manifestations d'aujourd'hui sont quand même assez importantes parce qu'elles montrent qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de se rendre compte que ce n'est pas normal de vivre sans dignité, que ce n'est pas normal que le gouvernement, par exemple, dans le cas actuel de la réforme des impôts, ce n'est pas normal que le gouvernement il décide vraiment de taxer aux plus pauvres, vu qu'ils sont déjà dans une crise énorme qui vient depuis longtemps, mais en plus qui s'est aggravée pendant la pandémie, où tout le monde a été vraiment affecté, mais les riches ont fait beaucoup plus de profits et ils ont reçu plein d'aides de l'État et tout ça. Donc, les gens commencent de plus en plus à ouvrir les yeux. Et maintenant, par exemple, toujours les stratégies du gouvernement, c'est délinquant, il casse, et toujours il arrive à dire, voilà, il y a une infiltration de la guérilla. En fait, c'est les groupes armés qui sont derrière toutes ces manifestations. Bah, les gens, maintenant, ça ne marche pas si facilement comme avant. Et avant, tout le monde disait, ah non, mais moi je veux pas me mêler de ça parce que bon, il y a quand même les groupes armés et tout qui sont infiltrés. Non, maintenant, les gens, ils réfléchissent plus et voilà, ils disent, mais non, mais c'est pas vrai parce que moi, je connais telle personne qui est là, qui manifeste, nous aussi. Donc, c'est quand même intéressant ce qui se passe. Je pense que la Colombie commence de plus en plus à ouvrir les yeux, à se faire écouter sur la défense de ses droits fondamentaux. Et une des choses qui montre ça, c'est que même malgré le fait que le gouvernement a décidé de retirer la réforme fiscale, les gens continuent. Et il y a plus en plus de gens qui sont en train de rentrer dans le mouvement de proteste. Donc c'est quand même intéressant. Et j'espère qu'après ça, il y aura un changement radical dans la politique du gouvernement et aussi au niveau de notre société, notre démocratie et l'accès à la participation citoyenne.
Pour conclure, on a vu que la question de la violence, des violences policières, de la répression dans les manifestations a commencé à émerger comme un nouveau sujet de débat politique un peu partout dans le monde, depuis les Black Lives Matter aux États-Unis, les Gilets jaunes en France, etc. Est-ce que c'est un sujet qui résonne en Colombie en ce moment, le fait de dénoncer les abus des forces de l'ordre en tant que telles?
Mais moi, je pense qu'en Colombie, les forces de l'ordre abusent depuis super longtemps, c'est un truc... incroyable. Par exemple, pendant que l'ex-président Uribe était au pouvoir, il a donné l'ordre de tuer des jeunes qui étaient sans emploi pour les déguiser en guerrilleros et montrer que voilà qu'il faisait une lutte en chiffres très bonne contre la guérilla. Et là, on parle de 6402 jeunes qui sont sortis un jour de la maison en pensant qu'ils allaient travailler, enfin. Et après, ils se sont retrouvés à des centaines de kilomètres comme les chefs d'un groupe armé guerrillero. Et donc, ces gens étaient assassinés par des militaires qui ont reçu des promotions, voilà, des cadeaux, tout ça. Et ça, on parle de 2005. Donc, je pense que la violence des forces armées, c'est comme quelque chose qu'en Colombie, on connaît énormément. Mais je pense que le fait qu'il existe les réseaux sociaux permet que les dénonciations sont plus grandes et que les preuves sont plus évidentes et que les gens prennent de plus en plus de conscience que cela se passe. Parce que lorsqu'on voit une vidéo, par exemple, tu parlais de Black Lives Matter, bah ici en fait on a eu un cas qui était très semblable d'un avocat, un avocat qui sortait acheter une bière, il est sorti de chez lui et la police l'arrête parce que voilà, il ne peut pas sortir à ce moment-là. Et du coup, bah, il fait le même qu'ils ont fait aux États-Unis quand ils ont étranglé, quand la police étrangle. Cet homme noir, ben là, ils ont fait la même technique du genou et il est mort aussi. Et ça aussi, ça a déclenché un mouvement. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, que les gens commencent à avoir de plus en plus d'arguments et à ouvrir les yeux de plus en plus. C'est une petite boule qui roule et qui prend plus de gens. Et je pense que ça, c'est important.
Est-ce que le fait qu'à l'international, on parle des violences policières comme quelque chose à dénoncer, est-ce que ça a contribué à dénormaliser en quelque sorte les violences policières en Colombie?
Je pense que bien sûr, ça a un effet, non, de voir ce qui se passe ailleurs et voir comment les gens, lorsqu'il arrive quelque chose comme les cas qui ont eu aux États-Unis, tout le pays est paralysé, ils brûlent les stations de police. Ça montre que voilà, ici, les choses qui passent, c'est pas normal du tout. Et que notre réaction est aussi très, très faible par rapport à l'énorme quantité d'assassinats qui sont commis par les forces armées et la police.
Super, merci beaucoup Viviana. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voudrais rajouter.
Non, je vous invite à être au courant de la situation qui se passe parce que voilà, on est quand même en transfert massacré. Et je pense que l'international, c'est très important. Je pense que les médias alternatifs ont un rôle super important à jouer et à nous permettre voilà, de ne pas être toutes seules avec ce régime de dictature qu'on a au pouvoir en ce moment.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous. Ritimo. Le changement par l'info.